Bonjour. Moi, j'ai juste une question. Enfin, l'impression que moi j'ai suite à votre présentation, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de pas du flou, mais de l'imprécision au niveau justement. On est beaucoup sur le ressenti, sur du déclaratif, alors que les élèves qui décrochent, on voit bien ce que c'est. C'est quelqu'un qui quitte un établissement. Et au regard de ça, on a l'amélioration du comportement des élèves, l'amélioration des résultats qui arrivent en avant-dernière position. Et moi, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que finalement, comment ça se joue entre les prérogatives de la région, les compétences de la région et celles du rectorat, de l'État? Est-ce qu'il y a là un facteur qui favorise la question de la lutte et de la prévention du décrochage scolaire, ou est-ce qu'à l'heure actuelle, et sans langue de bois, est-ce que ça constitue un obstacle ou encore des ajustements ou des comment ça se joue?
Je pense que votre question, elle est intéressante parce que elle est comment dirais elle nous a suivis sur ces 3-4 ans en fait, hein, à la fois en 2007 quand on était dans la phase de construction de cette politique régionale, et puis je pense par rapport aussi aux messages qui ont été envoyés sur les 3 années aux établissements. Je ne sais pas si c'est si on peut parler uniquement de flou. Alors c'est vrai que sur une enquête comme ça, sur des retours, forcément, dès lors qu'on est sur des éléments qui ne sont pas toujours objectivés, forcément on se dit est-ce que vraiment c'était la réalité ou autre. Ça, je le comprends bien, vous avez raison. Moi, ce que je comprends dans votre question, peut-être vous voudrez compléter après.
Non, mais c'est simplement au regard des sommes qui ont été consacrées à ce travail et au regard de l'évaluation elle-même, on peut se dire quand même il y a un hiatus entre la manière dont la région investit dans ce plan de lutte et la manière dont l'évaluation se fait. Voilà.
Deux réponses à faire à ça. C'est-à-dire, enfin, c'est un peu ce que j'allais vous dire, hein. Mais d'une part, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais finalement, une évaluation sur quelque chose qui est mis en œuvre, c'est pas si fréquent. Hein. C'est-à-dire que ça a plein de défauts. C'est insuffisant. Ça manque peut-être un peu de précision. Au moins, ça a un mérite, c'est que ça initie le débat. Je le dis en y croyant un peu. C'est-à-dire que ça a initié le débat au niveau régional, c'est-à-dire les fédérations de parents d'élèves, je les ai très peu citées, mais qui participent à ces travaux-là avec donc tous les acteurs que je n'ai pas arrêté de citer pendant l'intervention. Ça a initié ce débat, ça fait qu'il est mieux appréhendé, qu'il est reconnu, et ça a aussi rapproché, je pense d'une certaine manière, l'ensemble des institutions qui décident et qui essayent d'orienter les politiques. Donc ça a quand même ce mérite-là. Après, c'est pas faux que la région décidant d'aller sur la prévention du décrochage, ça n'allait pas sans problème en termes de complémentarité avec les compétences de l'État. C'est logique. Quand je vous disais que ça s'est en plus percuté, c'était pas fait exprès, mais avec la réforme de la voie professionnelle qui instaurait un certain nombre d'évolutions sur l'accompagnement personnalisé, etc., je pense que, vous dites ne pas faire de langue de bois, j'essaye de pas trop faire de langue de bois, c'est-à-dire que je pense que ça n'a pas permis à ce type de politique publique d'aller aussi loin que ça aurait pu, en termes de messages fournis aux établissements et de capacité d'évoluer, à être encouragé dans des positionnements, etc. C'est évident qu'il y a eu parfois des contradictions, il y a eu parfois des non-volontés de faire qui ont fait que le paysage est compliqué. Mais après, c'est un rapport entre qu'est-ce que ça a amené vraiment. Il faut souvent du temps, voilà, pour que les choses se réforment et qu'elles évoluent. Moi, je l'analyse plutôt comme ça, là d'où je suis. On en a souvent discuté avec l'ensemble de nos collègues, y compris des autorités académiques. Et ça aurait pu être encore bien mieux. Vous n'avez pas tort. C'est-à-dire que tant qu'à mettre ces sommes-là, l'analyse pouvait être de dire aussi, mais c'est au moment où l'État fait un certain nombre de réformes sur les moyens, enlève des moyens aussi. Hein. Ça, c'est pas une nouvelle, quoi. Tout le monde le sait. Et là, la région qui, d'un autre côté, vient mettre d'autres formes de moyens. C'était pas des moyens en poste. Là, c'était des heures, c'était l'achat de matériel, etc. C'est vrai que le message n'était pas toujours très clair. Donc déjà, au niveau institutionnel, c'était pas simple. Je pense que dans les établissements, certains n'y ont pas vu très clair. Ça va de soi. Après, voilà, bon, c'est des choix. Les élus régionaux ont fait ce choix-là à un moment donné. Je le redis, en partenariat très étroit quand même avec les autorités académiques et l'enseignement agricole, etc. Mais malgré ça, ce que vous dites me semble très pertinent dans les effets que ça a pu donner.
Et moi, je voulais savoir sur concernant les objectifs du projet des acteurs menés, il y avait un tableau. Et ça montrait que, par exemple, les équipes avaient travaillé beaucoup sur l'accueil, par exemple, sur l'accueil en début d'année. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle ils ont fait ce choix-là? Est-ce que l'enquête ou le recul que vous avez sur, sur ces 3-4 dernières années vous permet de développer une vision sur ce qui a guidé le choix de, du projet et quelque part les croyances qu'il y a derrière.
Oui, c'est ça. Alors, ouais, est-ce que c'est des croyances? Est-ce que c'est de... Oui, il y a du ressenti, il y a de l'analyse aussi. Hein. Je le redisais, enfin, quand on parle orientation par défaut, quand on parle pour certains à fait le net, hein, je recite ce qu'on a entendu. J'ai sous les yeux ce qui, dans la première question, quels sont les facteurs de décrochage? Ce que répondent en majorité les établissements, c'est l'absence de motivation initiale pour la filière, qui apparaît comme la cause de décrochage la plus importante, et l'orientation, qui joue un rôle majeur dans le décrochage, souvent présentée comme étant la matrice du décrochage. Voilà, donc je pense que si les établissements ont mis en œuvre d'abord des actions sur l'accueil et, je dirais, dès après le repérage en début d'année, c'est vraiment pour... on va dire travailler sur un aspect qui est le fait de se dire beaucoup d'élèves qui arrivent chez nous soit sont pas au niveau, soit voulaient pas être là et ils sont là. Moi, je fais le lien vraiment entre ces deux aspects-là. Parce que c'est vrai que ce type de projet était le type de projet mis en œuvre très majoritairement par les équipes des établissements. La question de l'intégration. Je ne sais pas si ça vous convient, ça. Je comprends vraiment ce que vous voulez dire, hein, parce que mais je sais c'est pas. J'essaye toujours de raisonner sur le système, parce que c'est pas aussi simple que ça. Enfin, on peut pas dire d'un côté l'État ou le système met tout en défaut, et puis après il y a la région par cet appel à projet-là. Il faut savoir que déjà les y compris les projets, hein, quand je vous ai dit la modalité, moi elle m'a semblé importante la modalité, c'est-à-dire appel à projet, parce que ça amène les équipes à travailler vraiment sur ce mode projet. Alors, je pense que vous êtes incité à ça de plus en plus. Hein. Vous n'avez pas besoin de la région ou des régions pour se faire. Mais en tout cas, voilà, c'est un levier qui nous semblait vraiment important, c'est-à-dire de réfléchir à l'ensemble des aspects d'un projet et essayer de mobiliser une grande partie des équipes. Et là aussi, d'ailleurs, on a retrouvé sur les réunions d'animation qu'on a faites chaque année une grande partie des établissements qui déploraient que certains dans l'équipe ne s'investissaient pas, et parfois en proportion importante, et que donc ça mettait en cause la capacité de ceux qui s'investissaient à s'investir dans le temps. Hein, mais y aurait beaucoup à dire pour un acteur extérieur. Pour moi, c'est pas évident parce que j'ai contribué à ce plan, j'y ai participé de l'intérieur. J'ai bien vu comment, dès qu'on va être sur une politique partenariale, le fait que les compétences sont comme ça. C'est-à-dire que la région, elle travaille dans le cadre du PRDF avec l'État. Et dans le cadre du PRDF, elle va, avec l'État, essayer de déterminer l'ouverture, la fermeture d'un certain nombre de formations, donc travailler sur l'offre de formation. Cela dit, elle n'a pas de compétence sur l'action éducative proprement dite, donc c'était une politique purement volontariste. Elle a décidé d'y aller, elle aurait pu y aller de mille autres façons différentes, sans doute. Elle y allait comme ça en 2008. En 2011, je vous l'ai dit exprès, hein, s'il y a une politique de raccrochage, c'est sans doute pour plein de raisons, mais cette politique de raccrochage, elle est arrivée quasiment même avant qu'on fasse le bilan complet du plan de lutte contre le décrochage et de ses effets bénéfiques, de ses points faibles et de ce qui pourrait être amélioré. Il y a eu, je pense, une vraie volonté de clarifier les compétences en disant d'un côté, il y a l'État qui met en place ses réformes, qui travaille avec ses personnels et qui veut faire avancer, voilà, avec la réforme de la voie pro, la réforme du lycée, l'accompagnement personnalisé, etc. Et la région va mettre ses moyens sur le raccrochage, mais quand même avec l'idée de travailler sur la transition, donc de travailler vraiment plus sur le fait d'éviter au maximum les ruptures trop importantes, ou en tout cas d'accompagner ces temps de rupture. Voilà. Donc je pense que ce que vous dites, j'ai pas de bonne réponse à ça. Je vois bien toutes les limites qui font que c'était pas... c'était coordonné. Il y avait une convention de partenariat. Il y a eu un pilotage très régulier entre les institutions. Mais n'empêche que derrière, à un moment donné, chacun doit appliquer la politique qui lui est un peu ordonnée. Et donc, c'était pas complètement cohérent, je le reconnais. Et malgré ça, je pense que les établissements qui ont vu arriver ces appels à projets, ils s'y sont investis majoritairement. Peut-être tout simplement parce qu'il y avait quelques moyens à la clé. Donc ça permet de monter quelques projets en plus et de aussi donner un petit peu d'initiative aux enseignants qui étaient porteurs de ces projets-là, quoi.
Toujours sur cette double compétence, le problème justement, pour sortir aussi du déclaratif, est-ce que vous avez, vous, région, accès aux chiffres SCONET? Puisque maintenant, quand un élève, pour le coup, n'est pas décrocheur, mais décroché, c'est-à-dire quand il sort de l'établissement, le chef d'établissement doit le signaler sur le logiciel SCONET. Est-ce que la région a accès à ces chiffres qui, pour le coup, ne sont pas déclaratifs, mais qui sont effectifs. D'autre part, est-ce qu'on ne pouvait pas prévoir un questionnaire type à donner à tous les jeunes qui arrêtent à un moment donné, pour une raison X ou Y, conseil de discipline, que sais-je encore, arrêt spontané, de sorte qu'on ait leur ressenti à eux sur la raison pour laquelle eux décrochent, et non pas l'avis du chef d'établissement ou de la bécane à Jules. D'autre part, est-ce que les 500 000 euros dont on parle, est-ce qu'il y en a un bilan chiffré établissement par établissement? Je crois que là, ça pourrait être intéressant. Sur le denier public, comment il est utilisé, ça m'intéresserait pour le coup. Enfin...
Alors, sur les trois points, donc d'abord, sur les chiffres, hein, vous citiez Skonet, la région n'a pas besoin d'avoir les chiffres comme ça au quotidien par rapport à ses compétences. En revanche, ce qui se met en place à travers les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs et donc le système là, du SIEI qui permet de recenser, on va dire, l'ensemble des décrocheurs et puis ensuite de décanter un peu les situations, etc., qui va demander à s'organiser, c'est évident. Voilà, ces chiffres-là, ils sont communiqués. La mission d'observation du décrochage, c'est notamment le lieu et les supports qui sont... les supports d'information qu'ensuite on répercute au niveau de l'ensemble des acteurs, ils sont faits pour ça. Donc les chiffres, on les a, mais on les utilise comme des chiffres qui permettent de faire évoluer des politiques publiques. Hein, nous, on n'est pas dans les compétences de suivi au quotidien, à part dans les CFA. Voilà. Donc ça, c'est pour les chiffres. Après, sur l'utilisation des crédits, en tout début de présentation, mais je le redis, j'ai présenté énormément de chiffres, donc ça va pas sans problème. Je vous donnais en gros les grandes masses hein, d'utilisation de ces crédits, donc naturellement, c'est le produit après d'analyse sur les 137 établissements qui les ont consommés. Hein, où là, on a les retours de toutes les actions qui ont été menées, et là, on a beaucoup d'actions voilà qui font appel à beaucoup d'heures d'enseignants, ça c'est forcément sur ces projets-là, c'est ce qui est nécessaire, ce qui fait levier. Et puis, beaucoup d'interventions, d'associations, qu'elles soient dans le secteur culturel, dans le secteur sportif. Et on est parfois là aussi pour jouer le rôle de médias, pour aller vers la reprise de confiance, l'épanouissement des jeunes, notamment. Voilà. On a vu aussi des crédits, donc je vous le disais sur la formation, on a une partie des crédits aussi qui ont à un moment donné fait appel à des psychologues et des psychologues pas seulement pour les, je sais pas si, qu'est-ce que vous attendez avec ces psychologues, mais pour les jeunes parfois et aussi pour les enseignants, c'est-à-dire des analyses de groupe pour les enseignants et pour les jeunes, le côté un peu, il faudrait se déstresser. Vous parliez d'idées reçues tout à l'heure ou de croyances. On a beaucoup ça aussi, c'est-à-dire des projets qui vont mettre en avant. Alors beaucoup, il faut relativiser, mais je dis peut-être ça en pensant trop, même si on n'a pas tellement, mais des projets qui font appel à des psychologues pour essayer de travailler sur le stress que vont engendrer la préparation des examens ou le suivi des études tout court. Et donc on fait appel, plutôt que de faire évoluer ces pratiques pédagogiques, et là je ne suis plus du tout sur le terrain de la région, mais en tout cas c'est ce qui est revenu dans les analyses, plutôt que de travailler sur des évolutions de la pratique enseignante, on va faire appel à un tiers extérieur, psychologue là pour le coup, pour essayer de faire ressortir les problèmes que rencontrent les jeunes et leurs difficultés. Voilà, on psychologise un petit peu là. On pourrait tout. Ouais, on peut. De toute façon, on peut imaginer un tas d'outils. Hein. J'aurais aussi tendance à dire que si, je ne sais pas si vous connaissez l'association La Bouture, qui est à Grenoble et qui travaille sur les questions de décrochage, le suivi de jeunes et d'autres. Hein. Je cite La Bouture parce qu'elle est en Rhône-Alpes et qu'on travaille beaucoup avec eux. Mais ils ont fait des portraits de jeunes. Ils orientent notamment vers le collège et lycée élitaire pour tous, mais pas seulement. Et dans les jeunes qui suivent, qui sont toujours des jeunes décrocheurs, ça au moins c'est leur point commun, ils ont fait beaucoup de portraits, des entretiens qualitatifs, des portraits vidéo, où les jeunes expliquent et expriment leur parcours, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont à dire vis-à-vis de l'école, et ce qui a fait que quand ils ont raccroché, ils ont eu le déclic, soit sur un moment, soit sur un temps plus long, pour trouver ce qui les a... ce qui leur a plu, ce qui les a remotivés. Donc ça, je pense que ces phénomènes-là, en réalité, on les connaît plutôt bien. Il y a pas mal de littérature, il y a pas mal de recherches qui ont été faites. C'est pas systématique. La question, c'est si on le rendait systématique, qu'est-ce qu'on en ferait comme utilisation derrière?